France Inter.fr.
Il est minuit 5, je vous laisse maintenant en compagnie de Vali, Pop, etc.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Pop, etc. Avec Vali sur France Inter.
De ses débuts au piano, au rôle d'arrangeur, producteur et compositeur, mon invité a vécu mille vies traversant le jazz, la variété, le pub et le cinéma. Homme donc à plusieurs facettes et homme de l'ombre. Il est mon dernier portrait de cette série dans Pop, etc. Bonsoir Jean-Claude Petit.
Bonsoir Vali.
Merci d'être venu ce soir.
C'est avec plaisir.
Alors j'ai l'impression que votre carrière ressemble un peu aux neuf vies d'un chat. Est-ce que vous avez cette impression parfois ?
J'ai tout à fait cette impression et je continue encore parce que je finis avec l'opéra maintenant. Enfin, je finis pas, j'espère.
Vous continuez, j'espère aussi.
Je continue même par l'opéra. Vous n'avez pas encore cité ça, vous vous rendez compte ?
Pas encore.
Je vais encore plus loin.
Je vais le dire parce que ce n'est pas fini. Comme je dis, 2013 a été une année faste pour vous. En mars, vous avez créé votre deuxième opéra, Colomba, à l'Opéra de Marseille.
Non, je vais créer.
Ah, vous allez...
En 14... Non, je l'ai écrit, je viens de finir de l'écrire et maintenant c'est en mars prochain.
En mars prochain, d'accord. Ouais. Alors on va voir si je suis bien le fil parce que je sais qu'en juin 2013, vous avez été élu président de la SACEM.
Oui, il paraît qu'on est le pays où il y a le plus de présidents, la France.
Oui.
Alors j'ai voulu faire comme tout le monde.
Donc toi, je vous appelais monsieur le président.
Ah non, surtout pas, il n'arrête pas. Mes copains se fichent de moi en m'appelant président, alors bon...
En tout cas, c'est une belle récompense pour un militant des ayants droit comme vous l'êtes, depuis très longtemps d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas oublier l'essentiel de Jean-Claude Petit, album conçu et réalisé par Stéphane Le Rouge, le grand Stéphane Le Rouge.
Notre ami Stéphane.
Voilà, exactement, sorti dans la collection Écouter le cinéma chez Universal. Et tout à l'heure, je passerai un coup de fil à Jean-Paul Rapneau, réalisateur de Cyrano de Bergerac. Donc Jean-Claude Petit, vous-même, avez signé et dirigé la musique, ce que vous a valu une César et une victoire de la musique en 1991. Et je crois même...
Ah, oui, et un British Award même.
British
c'est ça
Award.
Que j'aime le mieux, parce que les Anglais sont tellement snobs, c'est rare quand même.
Ah, c'est très bien. Et finalement, ils aiment un peu les grosses bifs. Non, les frogs, les grenouilles.
Les grenouilles.
Alors, le jazz a été votre premier amour d'adolescent, mais le grand public vous découvre sans le savoir grâce à la variété et à la chanson française. Clo-Clo, Lama, Delpech, Sardou, Chamfort, Sheila. Mais c'est avec Julien Clerc que vous avez fait le plus long chemin, plus de 12 ans d'albums communs. Vous avez signé les arrangements pour Ma Préférence, Paroles de Jean-Louis Dabadie et Musique de Julien Clerc.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle elle aime mon incertitude par hasard. J'aime sa solitude, je le sais. Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. À moi, ma préférence, à moi.
Julien Clerc dans Pop etc. C'était en 1978. Les arrangements de cette chanson sont signés par mon invité Jean-Claude Petit. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous entendez quand vous écoutez ça? La voix de Claire, les paroles de Dabadi, vos magnifiques cordes, l'harmonica, ouais. Le Serge Léoné, déjà le cinéma qui
c'est
s'immisce.
Vrai, c'est vrai. Non, mais c'était une époque bizarre parce que Julien, justement, et moi aussi, on en était à une époque de rupture un peu. C'est-à-dire, il y avait très longtemps qu'on travaillait ensemble. Lui, il avait rompu avec Rodagil, qui était son parolier que j'adorais, c'était mon pote. Donc ça me choquait un peu et il avait décidé de faire ce disque avec un groupe qui l'accompagnait sur scène. Donc il a fait le disque, puis alors on était restés amis.
C'était l'album Jaloux.
Non, c'était... cette chanson-là. Et donc, il me fait écouter le disque quand même, parce qu'on était restés liés. Bon, pas de problème. Et je lui dis, il est très mauvais ton disque. Parce que je suis comme ça avec lui. Je lui dis, vraiment, c'est pas bien. Et moi, il dit, bon, alors on recommence tout. Et là, on a recommencé avec moi. Donc, et ce titre-là, il trouvait que ça faisait vraiment trop chanson française. Poum, pouf, avec la pompe, comme ça, hein, c'était un peu... Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je crois que c'est un tube, c'est vraiment bien, ce titre-là, avec les paroles de Jean-Louis Dabadi. Et je vais trouver un truc. Et voilà, ce qu'on entend, c'est le truc en question, avec une rythmique imperturbable, mais avec des cordes et un synthétiseur doublant, et puis tous les contre-chants, avec un orgue, avec des flûtes, avec l'harmonica, etc. Bref, ça a été un tube.
Qui a failli passer à la trappe.
Parce qu'on
dit que vous reconnaissez un tube rapidement.
Non. Vous savez, je me suis beaucoup trompé dans ma vie. Parce qu'on parle toujours des succès, mais on ne parle jamais des insuccès. Il y a beaucoup plus d'insuccès que de succès, franchement. Mais enfin, c'est vrai que j'avais de l'expérience. Je faisais beaucoup d'arrangements avec tous les gens qui étaient à la mode à l'époque. Et surtout, Julien Clerc, j'ai toujours bien trouvé ce qui allait marcher avec lui.
Alors, on va vraiment peindre votre portrait ce soir. Vous démarrez très jeune dans la musique. C'est votre père qui vous met au piano.
Ben oui, parce que mon père, il était instituteur. Et le samedi dimanche, il faisait des balles. Et son rêve, ça aurait été d'être musicien. Seulement dans la famille, tout le monde est prof ou instit. Ou directeur d'école, ce qu'il est devenu d'ailleurs par la suite. Donc, il m'a mis au piano à Vers-sur-Marne, en banlieue parisienne, comme ça, dès l'âge de 5 ans. Et vers 10 ans, j'en savais plus que lui. Donc, j'ai dépassé. On est monté à Paris, un peu comme les provinciaux, hein, pour que j'aille au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et voilà comment je me suis retrouvé en musicien classique dès l'âge de 10 ans, quoi, avec la musique classique.
Avec, vous emportez des prix très jeunes, vous êtes doué, apparemment votre sœur aussi. Est-ce que vous avez aimé cette formation rigoureuse ?
Non, je souffrais beaucoup de ça. Je faisais du sport en parallèle pour me détendre un peu. Ça m'occupait quand même toute la journée, la musique. Et finalement, pour réagir contre mon père, j'ai adoré le jazz. Et c'est pour ça que j'ai eu... Mon premier amour, c'est en fait le jazz avant les filles. Hein.
Ah, dis donc, d'accord. C'est vraiment une confession ce soir. Alors, en mon avis, c'était aussi lié à votre âge, le jazz à cette époque-là. C'était la musique qu'on entendait. Et d'ailleurs, très jeune, vous commencez à accompagner des stars du jazz dans les clubs mythiques.
Oui, de Dexter Gordon, Jimmy Wilkins, Stan Getz, tout ça. Enfin, j'étais un peu pianiste prodige à 16 ans, 16, 17, 18 ans, au Blue Note, Shaky Pêche, tout ça.
C'est incroyable, 16 ans, ouais. 16 à 20 ans à peu près.
Mais c'était une époque où les grands musiciens américains venaient tout seuls à Paris et prenaient des rythmiques françaises. Rythmiques, c'est la basse, la batterie et le piano. Donc j'étais dans ces espoirs qui étaient mal payés, eux, très bien. Et on jouait jusqu'à 3 heures du matin pour eux et avec eux, et j'ai beaucoup appris grâce à ça.
Et un petit souris m'a dit que vous rentrez parfois à pied au lieu de prendre un taxi parce
que
c'était
toujours,
si mal payé de jouer là.
Que j'avais pas de quoi me payer le taxi parce que ça coûtait exactement le prix qu'on me payait.
Alors, c'est, comme vous dites, ce n'est pas bien rémunéré, donc vous décrochez une place dans l'orchestre Sylvie Vartan, car la variété était beaucoup mieux payée. Comment l'avez-vous rencontré ?
Très simple, je jouais au Blue Note et Eddie Vartan, son frère, était trompette amateur, trompettiste. Et à la fin d'un set, on appelle ça un set, quand les musiciens jouent, ils se reposent, il y a une petite pause, et là, il vient me voir, est-ce que vous accepteriez de remplacer mon pianiste ? Il est malade et il ne peut pas partir en tournée avec Sylvie Vartan. Je lui dis, bah, je ne sais pas qui c'est Sylvie Vartan. Parce qu'effectivement, je n'écoutais jamais la variété, c'est le comble. Donc il me dit, mais si elle chante, est-ce que tu la sais ? Le truc de Red Char, tu sais, pom, 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 oh, ça je connais. Bon, bah écoute, c'est payé tant. Et là, il me dit une somme, en franc, je ne me rappelle plus laquelle, mais ça m'a paru une fortune. Et puis tous les jours, en plus, en tournée. Et puis il y a un petit gars tout jeune en première partie, Claude François, mais enfin, ça, on s'en fout. Je dis, bon, je vais passer l'audition. Évidemment, je joue ce truc de Ray Charles au piano électrique. Il dit, ah, génial, ce que tu joues bien. Bon, bah, tant mieux, je pars. Il me paye le costume et tout. Et on part en tournée. Je gagne bien ma vie. Sauf que Sylvie Vartan, elle recevait des tomates.
Oh,
à l'époque, quand je le dis, hein, Sylvie, si tu m'écoutes, je suis désolé.
Oh,
c'est comme ça.
C'était comme ça.
Et par contre, Claude François faisait un triomphe. Donc, à la fin, c'est comme les footballeurs, j'ai été transféré de Sylvie Vartan à Claude François. Et c'est là qu'a commencé ma carrière dans les variétés que je ne connaissais pas du tout, du tout.
Alors, comme vous dites, Sylvie fait la première partie d'un géant de la variété française qui allait devenir, en tout cas, Claude François. Et bientôt, c'est votre collaboration avec le peroxydé le plus connu de l'ouest du Nil qui vous amène sur un autre chemin de votre carrière.
Absolument.
Ce qu'il est devenu.
J'ai pas révisé là.
Ah, parce que tous les matins il faisait
son petit déjeuner.
Petit déjeuner, je t'en foutrais moi. Anne, parce que tous les matins il faisait son.
Son lit.
Son jogging, bande de buses.
Son quoi?
Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech là, les Dèves, les Sardous, rentraient de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, dès Potron Minet, il était ici et yogué. Ok? Et ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team.
Viens dans les têtes, hein. Magnolia !
Forever !
Comment tu prononces ?
Forever ? Forever ?
Forever.
Comment tu dis ?
Forever.
Forever.
Magnolia !
Forever !
Allez !
Pop, etc. sur France Inter.
C'était un extrait du film Podium de Yann Moix, sorti en 2004. Les arrangements des titres de Claude François ont été totalement réenregistrés par vous, Jean-Claude Petit. Pourquoi ils étaient perdus ? Comment ça s'est passé ?
C'est-à-dire que moi, d'abord, je n'avais plus les disques et ensuite les partitions se sont perdues dans les pérégrinations de Claude. Et puis, à sa mort, tout a disparu, vraiment. Mais je ne sais pas.
Mm-hmm.
Absolument pas. Donc, je n'avais plus rien. Aucun témoignage. Donc, on m'a racheté les disques quand même, c'est pas moi qui suis allé. Et je me suis recopié, voilà. Mais très très loin, puisqu'il y avait même la chanson de Julien Clerc, avec ma préférence à la fin. Enfin, tout était de moi en fait. Donc, il a fallu que je me recopie complètement. J'ai repris les musiciens de l'époque, les miens. Et on a tout rejoué avec le son de maintenant, on peut dire. C'était un travail long, un peu nostalgique, un peu bizarre pour moi quand même.
Absolument. Et faire chanter Benoît Poulevard, c'était aussi dans vos cordes.
Attendez, là, ça a été très compliqué parce qu'on on a pris des sosies de Claude François qui imitaient Claude François. Alors je les ai sélectionnés, donc c'était ça, c'est comique de sélectionner ces sosies. Ensuite, il fallait que les lèvres collent de Benoît Poulvorde avec les playbacks. Il fallait qu'il apprenne tout, il fallait qu'on truque avec l'ordinateur pour que tout coïncide. Enfin, ça a été un travail gigantesque, mais très sympa avec Benoît, qui est un type absolument adorable, dont l'idole était Jacques Brel, pas du tout Claude-François derrière.
Alors, du coup, vous avez été arrangeur pour Claude-François, et quand vous arrivez là, la variété, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Claude Petit, que c'était quelque chose de nouveau pour vous. Mmh. Les arrangeurs, c'est vraiment un métier, je pense, encore aujourd'hui un peu mal connu.
Oui, mais c'est un peu comme les réalisateurs au cinéma, il y a un sujet, le sujet, là, c'est la chanson, mais il faut lui donner un cadre, il faut des musiciens, il faut lui donner des harmonies, des couleurs, inventer une couleur. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que comme j'étais arrangeur, par exemple, de Serge Lama ou de Marie Laforêt, dont je composais aussi des chansons avec Il a neigé sur Yesterday, c'était un tube, il est de moi celui-là.
On va l'écouter dans quelques instants.
Donc, mais je veux dire que ces arrangements étaient très différents, c'est-à-dire je faisais vraiment, on peut dire, le costumier des chanteurs. Et Julien Clerc n'avait aucun rapport dans les arrangements avec Claude-François.
Alors, comment avez-vous appris justement à faire des arrangements? Je pense que vous avez peut-être copié ou appris sur les chansons anglo-saxonnes.
C'est une très bonne question et vous l'avez dit. En fait, quand j'ai commencé, on imitait les Beatles et tout ce qui était à la mode. Et même les premières chansons que j'ai arrangées étaient des adaptations. Alors, on me donnait le disque anglais, il fallait que je fasse exactement la même chose. Donc ça m'a appris la manière dont on pouvait arranger et bien arranger, parce que souvent, il y avait de superbes arrangeurs. D'ailleurs, je les ai imités pendant 2-3 ans. Et puis, la chanson française a changé. C'est-à-dire, les gens ont fait leur chanson originale, mais moi, je savais écrire à ce moment-là les chansons, puisque j'avais 3 ou 4 ans d'expérience de chansons anglo-saxonnes. Et du coup, ben voilà, le métier est arrivé. Je me suis émancipé en même temps que les compositeurs de chansons françaises qui sont émancipés.
Alors, on dit, Jean-Claude Petit, que vous avez donné à la chanson des années 70 en France un son. Voici un exemple de quelques artistes pour qui vous avez signé des arrangements ou dirigé la musique.
Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs.
Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'ai des fourmis et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais...
Ah, Ah là là, c'est toutes les chansons des beaux souvenirs en plus. Mort Schumann, Stoney Chardin, Michel Delpech, Sheila et Ringo, Michel Jonas et Serge Lama, vous avez coécrit cette chanson avec lui. Alors, vous avez dit une fois que le passage du temps vous dit si une chanson ou un arrangement est bon. Alors,
oui, bah, c'est-à-dire le
pensez-vous
fait
de ce fait qu'on vient d'entendre.
Le fait qu'on puisse les écouter encore sans trouver le son démodé. Et Dieu sait s'il y a pas mal de titres là qu'on a entendus qui passent encore en radio. Claude François, il passe encore dans les boîtes. Quant à Julien Clerc, on entend tout le temps ses vieux disques. Ce sont des exemples, mais ça prouve, si ça ne se démode pas trop vite, parce que ça a quand même 35 ans d'âge, hein, tout ça. Ben finalement, on peut encore les écouter sans que ça paraisse ridicule. Or, il y a pas mal de disques qu'on écoute de 35 ans qui nous paraissent, en fait, qui nous font rire, mais dans le mauvais sens du terme. Là, ça nous donne, j'ai l'impression, juste la nostalgie.
Très, très bien, d'ailleurs. Alors, vous avez beaucoup milité pour les droits des arrangeurs, pour qu'ils reçoivent quoi, une part de droits d'auteur
Non, mais j'ai toujours été un homme engagé en dehors de la musique. Il y a des gens qui font la musique, puis seulement la musique. Je me suis toujours occupé de ce qu'il y avait autour de la musique, de la manière dont on la produit et de la condition de vie des gens qui la font. Je m'en suis occupé aussi des arrangeurs à l'époque et qui n'avaient aucun droit. Bon, ça passait comme ça, et puis ils étaient juste payés, et puis au revoir. Et donc, ça a été une conquête auprès de la SACEM. Effectivement, il y a 1/12 des droits qui revenaient aux arrangeurs à partir du moment où les compositeurs des chansons l'acceptaient.
Et aujourd'hui, c'est comment ?
Bah, je ne sais pas. Ça a disparu en partie, mais le métier a beaucoup changé, comme tout change, et c'est normal. Maintenant, les arrangeurs deviennent des réalisateurs aussi du disque. Donc, ils ont sûrement un pourcentage sur le disque qui négocie des choses comme ça. Mais ça dépend lesquelles.
Alors, vous avez dit que vous étiez fasciné par les Beatles et sans doute leurs arrangements signés George Martin. Ouais. Et j'étais très interpellée de voir que vous avez travaillé sur un film de Richard Lester, évidemment, qui a réalisé Hard Day's Night et Help.
Tous les films des Beatles, bien sûr.
Et du coup, j'imaginais votre bonheur à rencontrer cet homme-là.
Bon, on discutait beaucoup musique. D'abord, il joue de la clarinette, hein, Richard, lui-même. Il est un petit peu musicien. En plus, il m'avait choisi lui-même pour écrire la musique de son film. Vous savez, Les Mousquetaires, il y a 3 films qu'il a fait, lui, qu'il a réalisé plutôt. Et 3 films, l'un avec Lalo Schifrin, l'autre avec Michel Legrand, le troisième avec moi. Donc j'étais content de mes voisins, là. Et puis on a parlé beaucoup, effectivement, des Beatles qu'il adorait, dont il a réalisé tous les films. Il me racontait les anecdotes diverses, parce que c'était assez animé, ce clan des Beatles de l'époque. Et c'est un homme charmant, qui est toujours en vie, hein, mais qui ne tourne plus de films, malheureusement. C'était son dernier film, en fait, Le Retour des Mousquetaires.
Pour lequel vous avez signé la musique. Alors, Il a neigé sur Yesterday et interprété par Marie Laforêt. La musique est signée Jean-Claude Petit et Tony Rallo.
Tony Rallo, absolument, parce que, vous savez, on a un couplet, un refrain dans une chanson. Moi, j'avais trouvé le refrain « Il a neigé sur Yesterday, nanana, etc. » Et je ne trouvais pas la suite. Alors j'ai appelé mon copain Rallo, est-ce que tu trouverais une suite ? Miraculeusement, il a trouvé une suite. Le couplet, donc. On appelle ça le pont aussi. Voilà.
Avec les paroles complètement Beatlesophiles qui sont de Michel Jordan.
Eleanor Rigby. ne sait pas vraiment vous voir quand il passe à Dublin. Vous parlez de Michel, la belle des années tendres, de ses mots qui vont si bien ensemble, si bien ensemble. Il a neigé sur Yesterday, cette année-là, même en été, en cueillant ses fleurs, Lady Madonna a tremblé, mais ce n'était pas de moi. Il a neigé sur Yesterday, cette année-là, même en été, en cueillant ses fleurs, Lady Madonna.
La charmante Marie Laforêt, perdue dans le pays des Beatles en 1977. Dans la série des Hommes de l'ombre, mon invité est Jean-Claude Petit, arrangeur, chef d'orchestre, compositeur et président de la SACEM. C'est vrai que j'ai oublié de dire monsieur président depuis tout à l'heure. Alors, dans les années 70, vous commencez à travailler aussi sur des comédies musicales. Il y a Mayflower, dans lequel a joué mon très cher ami Gregory Kenn, entre autres.
Absolument.
La Révolution française.
Oui, une des premières comédies musicales qui a eu une résonance en France, hein, avec mes amis Boublil et Schoenberg, les auteurs, qui sont devenus ensuite des compositeurs et auteurs de Des Misérables, une comédie musicale qui dure depuis toujours dans le monde entier.
Et puis avec Julien Clerc et Étienne Rodagil, vous créez un opéra rock sur le front populaire.
36, front populaire absolument, dont une chanson qui a eu plein de grands prix qui s'appelle « Ça commence comme un rêve d'enfant ».
D'accord.
Voilà. D'Étienne Rodagil aussi. Et avec mon ami Jean-Pierre Bourter aussi, qui avait eu cette idée, avec qui je travaillais souvent. Vous savez, on avait fait aussi les génériques de Michel Drucker, toutes les émissions, Champs-Élysées, Star, tout ça. Où je vous ai rencontré d'ailleurs, sûrement.
Certainement, très certainement. Alors, cet opéra rock n'a jamais été joué sur scène, mis en scène, parce que faute quoi ? Pourquoi ?
D'abord parce que le sujet à l'époque était un peu révolutionnaire, un côté révolutionnaire. Ensuite, qu'Étienne Rodagil était un personnage romantique et difficile. Il ne voulait pas qu'on touche à ce qu'il écrit du tout. Et finalement, on avait un contrat aux États-Unis, mais ça ne s'est jamais fait pour plein de raisons. Vous savez, c'est mystérieux, c'est très mystérieux, notre métier.
C'est vrai. Vous avez beaucoup appris au contact d'Étienne Rodagil, Jean-Claude Petit.
Oui, j'ai beaucoup aimé Étienne, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. On va d'ailleurs faire un événement des 10 ans de son décès à la SACEM que je vais organiser, parce qu'il le mérite vraiment. C'était un grand poète, surtout. J'ai beaucoup appris de lui, parce qu'avant, je ne lisais pas les textes. Et quand Étienne est venu avec Julien Clerc, la première chose que j'ai lue, parce que j'étais étonné, ce sont les textes, qui n'étaient pas des textes de chansons habituels. Et depuis, je me suis intéressé aux textes.
Oui, il a dit aussi, je pense que c'est lui qui insuffle l'idée que la meilleure façon de composer, c'est d'être soi-même.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai retenu ça. C'est très difficile d'être soi-même et on a toute une vie pour essayer, quand on écrit la musique, d'être le plus possible soi-même.
Alors, comme vous avez dit il y a quelques instants, Jean-Claude Petit, vous avez fait partie de nos samedis soirs dans les années 80 avec ce générique que tout le monde connaît.
Etc. avec Valli sur France Inter.
Oh, que je me souviens de ces soirées de samedi soir, écouter, en tout cas regarder Drucker avec toutes les nouveautés de l'époque, c'était assez rigolo. Alors, vous avez fait un bref passage par la pub que vous aboriez, je pense que vous détestiez
ça. Mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la vérité, c'est que j'en avais assez des arrangements. Dans les années 81, une date fatidique, j'ai dit je ne ferai plus jamais d'arrangements. J'ai menti, bien sûr, parce que de temps en temps, un copain me demandait, Julien Clerc, entre autres, et d'autres. Mais c'était gratuitement après, vraiment. Et je ne faisais plus ce métier-là. Je voulais être moi-même, justement, comme disait Rodagil, et composer tout seul. Voilà. Et alors, bien sûr, je m'arrangeais tout seul aussi, du coup. Mais seulement le passage n'était pas si simple, hein, parce que donc la pub m'a tenté uniquement pour l'argent, je dois dire. Et ce sont des conditions de travail très difficiles, parce qu'on est au service, bien sûr, du produit. du patron, de la secrétaire du patron, de la maîtresse, du mec, etc. Et on fait écouter à tout le monde, sauf aux gens un peu compétents dans ce domaine-là. Mais je leur dois d'avoir bien gagné ma vie grâce à eux. Donc je remercie les gens de pub quand même.
Bien sûr, il ne faut jamais cracher dans la soupe parce que ça fait partie de votre parcours. Vous venez à la musique, je pense, grâce à votre rencontre aussi avec France Gall et Michel Berger qui monte une boîte de production et premier essai prix Jean Vigo. Et puis, c'est la rencontre avec Claude Berry pour Jean de Florette et bien sûr après Manon des Sources et Uranus. Alors vous dites, j'aime bien ça, vous dites la musique de film est définitivement la forme d'expression idéale pour faire la synthèse entre mes différentes cultures. Quel est le rôle de musique de film pour vous, Jean-Claude Petit ?
Le rôle, c'est l'âme du film, c'est la couleur sonore du film. Et c'est pour ça que je veux que dès le début d'un générique, il y ait un thème qu'on puisse reconnaître après et qu'on développe. Parce que c'est Ennio Morricone qui dit le métier de compositeur, c'est développer une idée. On peut tous avoir une idée, mais après, il faut la développer. Et le film le permet parce que la musique fait de une demi-heure à une heure quand même. C'est quand même beaucoup plus qu'une chanson. Donc il faut développer une idée et ça devient l'âme du film et même le souvenir souvent du film. Parce que lorsqu'on joue la musique seule, qu'elle a eu du succès, qu'on a eu cette chance avec le film, eh bien on se souvient du film.
Alors vous avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à vraiment lire les paroles des chansons avec Julien Clerc. Est-ce que c'est la même chose avec un film ? Avez-vous besoin de, je sais pas, le scénario, images aussi ?
Non, trop souvent on a le film au tout dernier moment, il est fini pratiquement en cours de montage, mais à la fin du montage, et on n'a pas le temps de réfléchir pour faire la musique. Moi je préfère lire d'abord le film, discuter avec le metteur en scène, avoir des idées diverses, les échanger, et puis trouver une esthétique pour la musique. Et c'est pour ça que toutes mes expériences sont importantes, parce que je me souviens avoir écrit des musiques de blues plutôt jazz, avec Gérard Mordillat par exemple, qui était d'ailleurs l'auteur de Vive la Sociale, le premier film qui avait eu le prix Jean Vigo en 1982. Mes débuts au cinéma, j'étais déjà un vieil arrangeur, un jeune compositeur de musique de film. Et donc, mes expériences, on peut décliner le jazz, on peut décliner des chansons, par exemple, avec Souchon, dans Le Zèbre.
Absolument.
Il m'a écrit une chanson, magnifique, le texte d'Alain. Et donc, la chanson. Et puis, la musique classique symphonique, qui est mon image de marque, parce que la réussite est arrivée avec Jean de Florette, avec Cyrano de Bergerac, le Chanson de Toit, tout ça, qui sont des grands orchestres symphoniques. Même Le Retour des Mousquetaires, c'est le rôle.
Alors, Jean de Florette sort en 1986 avec l'harmonica qui court sur le thème du film. C'est signé Jean-Claude Petit.
Thank you.
C'était la musique de Jean de Florette, film de Claude Berry, signé par mon invité Jean-Claude Petit. Un autre film va changer votre vie, Jean-Claude. Extrait.
Vous dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez?
Moi?
Qu'a-t-il d'étonnant?
Votre grâce se trompe.
Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe?
Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder?
J'avais.
Il vous dégoûte, alors?
Monsieur.
Malsaine vous semble sa couleur?
Monsieur.
Sa forme obscène?
Pas du tout.
Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez? Voilà!
Ciel!
Énorme mon nez! Ville Camus, saut Camard, tête plate! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud.
Bonsoir Jean-Paul Rapneau.
Bonsoir Valérie.
Comment allez-vous?
Très bien, très bien. Écoutez, là, je viens d'entendre la voix de notre ami Gérard, Gérard Depardieu. Et à chaque fois que je, enfin, chaque fois que j'entends, enfin, je sais pas, j'ai le frisson, bien sûr, et le souvenir.
Absolument, c'est la première tirade à propos de son nez dans votre film Cyrano de Bergerac, sorti en 1990. Et c'est mon invité et votre ami Jean-Claude Petit, bien sûr, qui a signé la musique. Alors, Jean-Paul Rapneau, vous souvenez-vous pourquoi vous avez choisi Jean-Claude pour composer et diriger la musique de ce film?
Eh bien, parce que c'était très compliqué. J'hésitais beaucoup, je ne savais pas que, si vous voulez, c'est une pièce qui a été, enfin, c'est Cyrano de Bergerac qui a été écrite à la fin du 19e. L'action se passe au 17e siècle. En même temps, moi, je voulais faire un film d'aujourd'hui, depuis le début, avant d'avoir pensé à Jean-Claude. Je me disais, mais comment faire? Est-ce que ce sera une musique de... Ce sera quelque chose qui évoquera le 19e, les opéras de la fin du 19e, l'époque où la pièce a été écrite, quelque chose comme une sorte d'opéra de Verdi. En même temps, est-ce que ça sera plutôt une musique du 17e siècle, comme celle de l'époque où se passe le film? Mais en même temps, c'est un film de cinéma, donc on ne peut pas faire non plus une vieillerie. Donc comment accorder tout ça? En vérité, c'est en voyant Jean de Florette, avec la manière extraordinaire dont il a, Jean-Claude, fait renaître d'une certaine manière ce thème qu'il y a dans l'opéra de Verdi, La force du destin, que j'ai pensé que c'était l'homme qu'il me fallait. Donc on s'est rencontrés, on a parlé, je lui ai parlé de ça, de cette difficulté de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle époque, quel style, et tout ce que je lui ai raconté, il me disait, mais il y aura tout ça.
Il est très arrangeant, Jean-Claude Petit.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Jean-Claude. On peut mêler tout ça et c'est ce qu'il a fait magnifiquement. Voilà, donc je ne m'étais pas trompé en allant le voir.
Alors, une question avant que vous répondiez, Jean-Claude Petit. Est-ce que pour un réalisateur, c'est vraiment le moment où vous devez vraiment vous mettre totalement entre les mains de quelqu'un d'autre, Jean-Paul Rapneau?
Oui.
Est-ce que c'est facile?
On l'a souvent dit, mais enfin, il faut le redire. Pour quelqu'un qui s'implique vraiment dans les films, qui veut en faire qui veut faire quelque chose de personnel, ce qu'on appelle un auteur de film, dont j'espère faire partie, eh bien, c'est le seul moment où il donne les clés à un autre artiste, entre les mains duquel il est, il se livre complètement. Quoi. C'est ce que fera le musicien va changer. Enfin, je n'irai pas changer le film, mais donner au film une couleur qu'il n'avait pas et qui restera celle du film pour les années, les siècles à venir. Donc c'est un moment, ce moment-là, cette remise des clés à l'autre artiste est toujours difficile, angoissant. Mais on en est remercié. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas la musique, comme la plupart des... Enfin moi, en tout cas, je ne connais pas. Donc je ne sais pas comment, je sais pas comment ils font, voilà. Et on ne le sait que le jour où quelques mois plus tard, on est dans un auditorium, et d'un seul coup, quelqu'un lève une baguette et enfin, je me souviens de ce moment dans Cyrano, enfin le moment où Jean-Claude a levé sa baguette Et alors, avant, j'avais évidemment entendu au piano des trucs, enfin, les thèmes, là, ça sera ça, ding, 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 ding. Bon, d'accord, ok.
Mais c'est une drôle de manière.
Effectivement, vous ne connaissez rien à la musique, Jean-Paul Rappeneau. Hein.
Non, il chante très bien, Jean-Paul.
Et puis, quelques mois plus tard, on se retrouve là-haut. Et puis, il lève la baguette, et il y a 80 musiciens. Et ce moment-là, je n'oublierai jamais, quoi. C'est... Ce début du thème, le thème extraordinaire qu'il a inventé, composé avec ce trompette merveilleux, comment s'appelait-il ?
Thierry Kanz,
oui. Et là, moi, j'avais les larmes aux yeux. Là. Dans la seconde, parce que c'était mon film. Voilà, et pour toujours, ça sera ça. C'est pour toujours, Cyrano, je n'ai pas le chanté. Voilà, bon, enfin... Je parle trop, peut-être.
Non, pas du tout, on est ravis d'entendre.
Tu parles bien, en plus.
Oui, vous vous souvenez très bien de ça. Parce que
ah bah oui, c'est un souvenir.
Moi aussi, attends. Mais moi, j'avais le trac, parce que ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, je lève les bras, puis là, je m'occupe de l'orchestre, donc j'oublie tout. Et puis quand on a fini le morceau de 3, 4 ou 5 minutes, il est assez long, d'ailleurs, ce morceau, à la fin du film, mais je l'enregistrais dès le début de la séance, je me retourne vers la cabine, et il y a une grande vitre, et je vois la tête de Jean-Paul, et là, c'est moi qui avais le trac, parce que je me dis, soit il va trouver ça très mauvais, il va y avoir une ambiance terrible durant toute la séance d'enregistrement, et puis avec les 70 musiciens qui étaient là, c'est pas très facile, et c'est le compositeur qui a le trac, vraiment, dans ce cas-là, le plus. Alors, j'ai vu que Jean-Paul était ému, pensais que peut-être j'avais une chance que ça soit gagné, quoi.
Et alors, est-ce que tu te souviens de ça, quand le film est sorti, enfin, il y a eu la première du film, et depuis quelques jours... Paris parlait d'un film qui allait être extraordinaire, qui allait être peut-être au Festival de Cannes. Donc personne ne l'avait vu, c'est la première. Et on l'a fait au cinéma Normandie. Et le film, le générique arrive, la musique commence. Et les gens qui n'avaient pas vu le film, qui ne connaissaient rien, applaudissent déjà. Tu te souviens de ça ?
Oui, je me souviens.
Applaudissent la musique.
C'est sympa.
Applaudissent la musique.
C'est rare.
C'est formidable.
Très beau souvenir quand même pour ce film ensemble. Et vous avez refait un autre film, Hussard sur le toit.
Oui, alors, très belle expérience aussi.
Très, très belle expérience. Et alors là, plus simple, parce que le film, c'est un hommage au 19e.
Oui, et là, c'est carrément. Ouais.
Alors là, on est dans le 19e, c'est un hommage à tout ce qu'est le 19e, moi qui ai vécu dans l'amour de la littérature du 19e, et aussi, au fond, dans la musique romantique.
Brahms et Mendelssohn, exactement.
Brahms et Mendelssohn, et alors là, Jean-Claude s'est déchaîné.
Mais c'était un plaisir, vraiment. C'est un plaisir incroyable. Moi, ces deux films... En plus, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage dans les deux cas parce qu'il y avait des scènes live avec des musiques, des processions, des choses comme ça. Dans Cyrano, ça commence avec plein d'orchestres, justement, sur scène. Et puis dans le Hussard, il y a encore plus d'orchestres sur les places publiques, chacun jouant une musique différente. Alors j'étais là. Et ça, c'est formidable parce qu'on épouse vraiment le film et son ambiance. Et puis comme Jean-Paul, il maîtrise tout, il écrit tout, il dessine tout avant, je me disais, effectivement, lui, il maîtrise vraiment tout. Il n'y a que moi qui aurais un espace de liberté.
En tout cas, ça donne une seule envie, c'est d'aller voir le film et d'écouter la musique. Et Monsieur Rappeneau, on va vous quitter sur ce thème merveilleux de Cyrano, du film Cyrano de Bergerac. Je vous remercie infiniment d'avoir appelé ce soir pour
merci
nous raconter.
Jean-Paul, merci.
Écoutez, merci Valérie, merci Jean-Claude. Et voilà, je suis touché aussi que vous m'ayez appelé.
Et puis il a changé ma vie, Jean-Paul, comme ça, parce qu'un succès pareil, ça change la vie.
Ouais, écoute, ça me touche beaucoup et je t'embrasse.
Voilà. Moi aussi, bien sûr.
Au revoir.
Thank you.
c'était le thème merveilleux Cyrano tiré du film de Jean-Paul Rapneau avec qui on vient de parler. La musique est signée bien sûr pour mon invité Jean-Claude Petit et j'ai appris que vous avez choisi le trompette exprès pour rappeler le nez du protagoniste Cyrano.
Bien sûr, j'ai une anecdote, c'est la femme de Depardieu, de Gérard. Elisabeth Depardieu, à l'époque c'était sa femme, ils sont divorcés, mais enfin c'est comme ça, ils restent bons amis je crois, qui me dit, écoute, quand j'ai vu Gérard avec son faux nez, je lui ai dit, eh mais Gérard, il n'y a aucune différence avec ton vrai nez. Voilà.
Pop, etc. Sur France Inter.
Vous êtes vraiment à la fête ce soir, ouais. Jean-Claude Petit. C'était le thème du film de Marco Pico, Savannah.
Ouais.
C'était en 1987 et vous vous souvenez bien sûr que le thème est fredonné par Jacques Higelin.
Ben oui, juste après l'introduction qu'on vient d'entendre.
Voilà, je trouvais que c'était une très jolie petite...
J'aime bien utiliser mes anciennes relations des variétés. Je l'ai fait avec Alain Souchon, avec Higelin, avec bien d'autres.
Alors, on continue notre petit portrait, parce que c'est presque terminé, c'est le dernier chapitre. En tout cas, déjà. Après, il faut refaire après les opéras, que vous nous préparez. Alors, vous avez travaillé, ce qui est merveilleux, c'est que vous avez gagné le British Award pour cette musique, pour Cyrano, qui vous a amené à travailler à l'étranger. Est-ce que l'attitude est différente? Est-ce que les orchestres sont différents? Vous avez dit que vous avez travaillé avec le London Symphony Orchestra, vous avez travaillé en France, au Japon.
En Bulgarie aussi, on va dans les pays de l'Est enregistrer, surtout pour les séries de télévision, parce que j'ai aussi beaucoup écrit les séries de télévision, du Château des Oliviers au Misérable, de José Dayan, etc.
Et les de Chatterley de Ken Russell, le fou.
Il était en Italie, il me téléphonait, j'ai enregistré à Munich avec le Munich Symphony Orchestra. Donc c'était compliqué. Mais justement, c'est une vie très excitante, le cinéma, avec des gens de culture, parce que c'est des gens qui lisent, des gens qui écrivent. Et on peut faire le tour du monde en musique aussi, parce que par exemple, Merig avec Henri Verneuil, c'était l'histoire des Arméniens. J'ai découvert moi-même le doudou, que je l'ai utilisé.
L'instrument.
Bien sûr, il y a bien d'autres films comme ça où je découvre des instruments ethniques, avec Lumumba de Raoul Peck, je fais de la musique africaine, je fais même du cha-cha-cha, des choses comme ça. Donc on a des aventures géographiques aussi, ça me permet d'aller dans les pays, de prétexter d'une enquête pour me faire payer le voyage.
C'est pas mal.
C'est pas mal aussi. Donc c'est un beau métier si on arrive à le faire, hein, parce qu'on n'y arrive pas forcément.
Justement, est-ce que l'avènement des machines et des nouvelles technologies, des synthés, des ordinateurs, est-ce que ça a changé le métier de compositeur? Est-ce que aussi ça a fait baisser les budgets, que sais-je? Parce que évidemment, un orchestre, ça doit coûter cher pour réunir et diriger.
Alors écoutez, la nostalgie, c'est pas trop mon truc. Il y a un très beau mot au Japon, c'est Natsukashi, ça veut dire nostalgie, mais faut pas trop la cultiver. Tout change tout le temps, les conditions de travail changent, les orchestres changent, la manière de travailler change. Alors moi, j'aime pas beaucoup faire les maquettes qu'on peut faire maintenant grâce aux ordinateurs, parce qu'on montre ce qu'on va faire avant de le faire. Et donc le réalisateur peut faire changer. Et si le réalisateur fait changer le compositeur, c'est plus la musique du compositeur, c'est plus une œuvre. C'est une illustration sonore pour une scène, plus une autre musique pour une autre scène, mais il n'y a plus une cohérence normale. Alors je me bats contre ça, mais je ne me bats pas contre la technologie que j'utilise aussi. Je peux très bien avoir des sons que je n'ai pas ailleurs grâce à l'ordinateur.
Alors pour terminer, il faut quand même parler, parce que vous avez dit vous-même, et je le sais, vous êtes militant, mais vous êtes président de la SACEM, on a un peu rigolé tout à l'heure, mais c'est quand même l'associé des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, et ça c'est depuis juin, la SACEM gère des droits d'auteur. Très rapidement, quel est le plus grand combat aujourd'hui pour la SACEM et pour le respect des ayants droit?
Le combat, il est éternel, parce que bien sûr, ceux qui payent le droit d'auteur essayent toujours de ne pas le payer. C'est une première chose. Ensuite, maintenant, on a les commissaires européens, comme dans tous les domaines, qui veulent nous mettre en concurrence avec les autres sociétés étrangères avec lesquelles on correspond très bien. On leur donne leurs droits, ils nous donnent les nôtres, il n'y a pas de problème. Et bien maintenant, ils veulent nous mettre en concurrence et nous obliger à des taux de gestion qui feraient qu'on ferait des sondages comme ça, on paierait les 100 premiers qui passent le plus et on ne paierait pas les autres. Parce que nous, on a des délégués dans toute la province qui vont chez les coiffeurs, n'importe où, comme ça, chercher ce qui est normal, c'est-à-dire le salaire du compositeur ou de l'auteur ou de l'éditeur, si on a un éditeur. Donc c'est une mission très importante. Je rappelle qu'on est les inventeurs du droit d'auteur en France grâce à M. de Beaumarchais.
Absolument.
Au moment de la Révolution française. Donc c'est un droit de l'homme et une conquête française.
Alors pour terminer notre conversation avec Jean-Claude Petit, un extrait d'une de ces musiques de films où vous en avez parlé plusieurs fois dans l'émission. Et voilà, il est là, ça s'appelle Le Zèbre de Jean Poiret. Et la chanson titre est interprétée par notre adorable Alain Souchon.
Car nos aurores ne sont que des aurores et nos baisers, des baisers. Boule unique, voilà notre amour sous les coups de pied du jour le jour. Car tout s'use si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre. Il se déguise et il te ment. Il met la main sous tes vêtements. C'est quelqu'un d'autre et cette nouveauté rend ta joue plus colorée. C'est quelqu'un d'autre et pourtant c'est nous. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? La 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 la. Car tout s'use si l'on se serre, couche d'ozone et effet de serre. Il trouve pour ce souci le drôle de zèbre des facéties, des facéties. Un voilier qui s'en va d'ici. Et le zèbre s'efface ainsi. Quel drôle de face ici.
Alain Souchon pour le film Le Zèbre de Jean Poiret. Jean Poiret qui est mort
avant que j'écrive. Ouais, il m'avait téléphoné, il était à l'hôpital et je devais le voir le samedi. J'écoute France Inter justement, mais vraiment, c'est pas un mensonge. Et France Inter dit Jean Poiret vient de mourir. Et j'avais rendez-vous à 3h de l'après-midi.
Incroyable. Mais voilà. C'est un très beau morceau qui vous avez laissé pour ça. Merci beaucoup, beaucoup, Jean-Claude Petit, venu ce soir. Je voulais remercier aussi Jean-Paul Rapneau, parce que c'était absolument merveilleux de parler avec vous deux ensemble. Je rappelle vos actualités. L'essentiel de Jean-Claude Petit, album conçu et réalisé par Stéphane Lerouge, sorti dans la collection Écoutez le cinéma chez Universal. Stéphane Lerouge, qu'on salue et qu'on remercie chaleureusement, ainsi qu'Elisabeth Ancelin de la SACEM. Mm-hmm. Je voulais vous rappeler, chers auditeurs, qu'il y a la création en mars 2014 à l'Opéra de Marseille, de Colomba. Vos deuxièmes...
D'après Prosper Mérimée, c'est une nouvelle de Prosper Mérimée que j'avais lue quand j'étais petit. Mon grand-père me l'avait fait lire.
Ah.
Un beau souvenir et c'est une commande de l'Opéra de Marseille.
Voilà. C'est votre deuxième opéra d'ailleurs. Oui. Toutes les infos liées à cette émission sont sur notre site tapezfranceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, je reviens sur la musique électronique française d'avant-garde 1970 à 1980 à l'occasion de la sortie de la compilation Cosmic Machine chez Because. Mon invité, entre autres, Dominique Perrier du groupe Space Art. Ça vous parle peut-être, Jean-Claude Petit. Pop etc. a été réalisé par Céline Hila avec Arnaud Caillé. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Djoubaka. Je vous retrouve demain soir à 20h pour Live Midou avec sur scène au Studio 105 Anna Calvi, Mélanie de Biasio et Olivier Libaud pour son projet Queen of the Stone Age Uncovered. Juste après les infos, la lune a des oreilles avec Muriel Pérez. Très belle nuit sur France Inter. Mmh.